Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après Vibra SOS, on retrouve Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour être au courant de l'actualité scientifique. Pendant une heure, Graphite vous propose tous les samedis de s'informer de la revue de presse sur l'actualité scientifique et technique. On va aborder l'espace, la médecine, les nouvelles technologies, les objets connectés, tous ces sujets qui nous concernent. Les laboratoires du monde entier travaillent dessus et on se tient informé toutes les semaines, tous les samedis, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. C'est Biotine, Jean-Noël avec vous pendant une heure. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4 mai, journée internationale des pompiers. Le 4 mai, ça a été décidé en 1999. À l'époque, il y a eu le décès de 5 pompiers lors d'un feu de forêt en Australie. Et du coup, on a décidé de leur dédier une journée fixée aujourd'hui, le 4 mai, le jour de la Saint-Florian, qui est le patron des pompiers. Au niveau de l'éphéméride, pour le 4 mai, en 1904, il y a la reprise de la construction du canal de Panama par les Américains. Le 4 mai 1924, il y a le premier vol en circuit fermé d'un hélicoptère. Le 4 mai 1956, c'est le début de l'opération Red Wing, une série de 17 essais nucléaires américains menés aux atolls de Bikini et d'Eniwetok également. Et le 4 mai 1986, c'est l'incident nucléaire à la centrale THTR-300 en Allemagne. Le 4 mai 1986, un réacteur expérimental de 300 MW libère des gaz radioactifs jusqu'à 2 km de distance à la suite d'une action visant à dégager une conduite d'alimentation de fioul obstruée. Et cet incident nucléaire, elle était totalement dissimulée. L'augmentation de la radioactivité ambiante étant attribuée à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui avait eu lieu quelques jours avant, le 26 avril 1986. Et on a décidé en 88 d'arrêter cette centrale en Allemagne. Mais un incident nucléaire à la centrale THTR-300 en Allemagne le 4 mai 1986, mais à l'époque, on avait les yeux braqués sur l'Ukraine et notamment Tchernobyl. Le 4 mai 2000, c'est le virus informatique AlloyView qui attaque les internautes du monde entier. C'était en l'an 2000 déjà, le fameux virus AlloyView. On s'en souvient peut-être, il y a 19 ans, c'était un 4 mai où il commençait ses attaques. Toujours au niveau de l'éphéméride, on peut célébrer aujourd'hui la naissance de Jean-Charles Chevalier de Borda, qui est né à Dax le 4 mai 1733. C'est un mathématicien, physicien, politologue, navigateur français. Il a donné son nom à plusieurs vaisseaux, écoles des 19e et 20e siècle sur lesquels étaient embarqués les élèves de l'école navale. Après quelques années passées au collège Henri IV de la Flèche, Borda entre dans le génie militaire. En 1756, il rédige un mémoire sur le mouvement des projectiles. Produit un petit peu de ses études en tant qu'ingénieur militaire, ce mémoire lui ouvre les portes de l'Académie des sciences. Il publie aussi plusieurs mémoires sur l'hydraulique et la résistance des fluides. Jean-Charles Chevalier de Borda naît donc le 4 mai 1733 à Dax. Il est mort en 1799 à Paris. Le décès le 4 mai 1972 du chimiste américain Edward Calvin Kendall. Il sera lauréat avec deux autres scientifiques en 1950 du prix Nobel de physiologie, le prix Nobel de médecine, pour les découvertes sur les hormones du cortex des glandes surrénales, leur structure et les effets biologiques. En fait, le travail de ces chercheurs sur les hormones a abouti notamment à l'isolement de la cortisone. C'est donc Edward Calvin Kendall, né en 1886 et mort donc le 4 mai 1972, chimiste américain. Voilà pour cette éphéméride. Et à l'occasion de l'année internationale du tableau périodique des éléments, mais vous le savez, toutes les semaines pour cette année 2019, nous allons remplir ensemble la case numéro 2. Le 1, c'est l'hydrogène. Le 2, c'est l'hélium, qui est le deuxième élément le plus abondant de l'univers, avec près de 23% en masse. Il est sous forme gazeuse à température et pression ambiante. Et sa température d'ébullition, c'est à moins 269 degrés. C'est un petit peu la température parmi les plus basses qui sont connues. L'hélium liquide est donc largement utilisé, bien sûr, dans les systèmes de refroidissement, parce que l'hélium est liquide quand il y a de très très basses températures. Et c'est donc un élément qui est assez léger, l'un des plus légers d'ailleurs, bien moins dense que l'air, ce qui permet de faire voler des ballons météorologiques, des dirigeables, ou alors peut-être de façon un petit peu plus anecdotique, les ballons d'anniversaire bien sûr que l'on remplit à l'hélium. L'hélium qui fait partie des premiers éléments apparus après le Big Bang et fut le premier découvert hors de notre atmosphère. Il faudra quand même attendre 1868 et l'astronome Norman Lockyer pour en identifier un petit peu les raies spectrales qui sont émises par le Soleil. C'est également de là que viendra son nom du grec Hélios qui signifie Soleil. Et donc, on a nommé ce gaz l'hélium, symbole chimique grand H petit e, et c'est donc le numéro 2. Grand H tout seul, c'est l'hydrogène. Et comme lui, il était le deuxième, on a rajouté le petit e pour le différencier. Voilà, on a donc rempli la case de l'hélium sur le tableau périodique des éléments de Mendeleïev à l'occasion de cette année internationale de 2019 consacrée essentiellement à la chimie. Pas mal de sujets dans cette émission aujourd'hui. On va parler un petit peu de médecine, on va parler également d'intelligence artificielle qui est aussi un autre sujet qu'on évoque très souvent dans cette émission. On va parler un petit peu d'informatique, on va parler de ces objets intelligents, autonomes, et qui vont pouvoir peut-être améliorer, on l'espère en tout cas, notre quotidien. Et on va aussi s'intéresser à ce rapport assez alarmant concernant la pollution en France, où on a dit que 3 enfants sur 4, c'est quand même énorme, respirent un air toxique en France. C'est assez alarmant. On verra tout ça. Et puis, comme depuis la semaine dernière, on va retrouver aussi Anne Fleur dans cette émission. Anne Fleur qui, depuis la semaine dernière, nous propose une petite chronique sur les inventions dans les grandes villes. La semaine dernière, c'était Boston. Alors, nous allons voir pour cette émission où est-ce qu'elle va nous emmener. Sûrement encore assez loin de notre chère France. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Graphite et Biotine, l'émission de science, est aussi une émission musicale. Donc on va écouter un petit titre, hein. On va démarrer comme ça tout doucement et après on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de l'actualité scientifique. A tout de suite. Brother, take a wall and put it on my mind. She wants to meet them to recognize the style. Thank you for the trip, bad kiss on your lips. And just turn around, they're laughing or they're crying. Laughing or they're crying. And Angels Turn Around, c'était le groupe Angel sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, vous avez bien raison. C'est comme ça, ça vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique. On va parler médecine avec notamment cette opération assez particulière de la biopsie de la prostate, qui n'est quand même pas une partie de plaisir, bien sûr. Il y a quand même les patients qui redoutent un petit peu cette opération. Eh bien, ces derniers mois, le service d'imagerie médicale du Centre Hospitalier Universitaire de Lille a commencé à proposer aux patients un masque connecté pour essayer de réduire l'anxiété. Et l'idée, c'est de pouvoir un petit peu faire en sorte qu'ils se sentent un petit peu mieux. Et on propose ce masque pour effectuer l'acte médical qui est indispensable pour diagnostiquer, bien sûr, un cancer. Et l'examen est pratiqué sous anesthésie locale, mais il est souvent vécu comme désagréable et anxiogène par les patients, notamment en raison de l'utilisation d'un pistolet à aiguille. Lors d'une présentation à la presse il y a quelques jours, le professeur Philippe Puech, chef du service d'imagerie génito-urinaire du Centre Hospitalier Universitaire de Lille et qui était l'initiateur également du projet, il a expliqué que l'objectif est de rassurer les patients pour que cette expérience soit mieux vécue. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qu'on a appelé Hypnose Pro, qui a été créé par une start-up française et il est piloté avec une application. Il est composé en fait d'un masque avec des diodes lumineuses qui vont permettre de ressentir les nuances les yeux fermés, et il y a également un casque audio qui va diffuser une histoire relaxante, comme par exemple la description d'un beau paysage en Inde ou une baignade avec des dauphins. C'est vrai que ça va être sympa. Et pendant une quinzaine de minutes, le patient est isolé au niveau sonore et visuel. Il est plongé dans une histoire. Et c'est ce qu'explique justement le professeur Puech, dont son équipe est formée aux techniques d'hypnose conversationnelle. Grâce au soutien financier notamment d'une fondation de lutte contre la douleur et également le groupement interrégional de recherche clinique et d'innovation Nord-Ouest, eh bien, le service a pu se doter de deux masques et a donc mené une petite étude. Plus de 90% des réponses au questionnaire ont révélé un ressenti bénéfique, ce qui nous a permis de lancer cette recherche. L'étude, qui débutera dans quelques jours sur 172 patients pris en charge pour des biopsies, essentiellement bien sûr des hommes de 50 à 75 ans, a pour objectif de quantifier la différence de ressenti de la douleur et de l'anxiété entre un groupe qui ne bénéficie pas du masque et un autre qui en bénéficie. C'est ce qu'explique le professeur Puech, qui souhaite montrer l'utilité à employer ce masque de relaxation, car celui-ci il a quand même un coût de 2 000 € pour la version qui est utilisée et prend du temps aux manipulatrices radio. Il faut donc qu'il y ait un bénéfice pour le patient. Alors, ce masque un petit peu d'hypnose quelque part connecté qui va être testé à Lille, il y a déjà des masques un peu similaires qui sont utilisés, notamment par des dentistes qui utilisent une version grand public qui est également commercialisée. Son utilisation pourrait être étendue à d'autres domaines tels que la radiologie interventionnelle ou la néphrologie également. Et donc voilà, c'est assez nouveau. Et cette idée d'avoir un masque connecté pourrait justement permettre d'avoir un petit peu plus de... d'apaiser les patients, toujours dans cette anxiété un petit peu latente qui existe dans ce genre d'intervention. Voilà, c'est donc tout nouveau et ça nous vient donc de Lille et ça a été annoncé il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pour ça que c'était intéressant d'en parler dans cette émission de Biotine. Autre chose, on va s'intéresser dans des objets connectés, parce qu'on se rend compte maintenant qu'il y a quand même quelques risques. Par exemple, plus les objets sont connectés, plus le risque est grand de les voir pirater, bien sûr. C'est un problème qui s'applique également aux voitures. Et on a appris qu'un hacker, donc un pirate, aurait déjà eu accès au système via plus de 27 000 comptes compromis. Il aurait ainsi la possibilité, par exemple, de prendre le contrôle de plusieurs centaines de milliers de véhicules à travers le monde, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Inde et les Philippines, nous dit-on. La faille concerne en fait deux applications de GPS qui sont utilisés par les entreprises pour suivre le parc automobile à la trace. Le problème ne vient pas d'une erreur dans le code qui laisserait une porte d'accès. Il s'agit comme trop souvent, en fait, d'une erreur humaine, tout simplement. Les applications implémentent un mot de passe par défaut qui n'a ensuite pas été changé par l'utilisateur. Et c'est un peu la même faille que pour le piratage récent des stations essence en France. Et donc, ce pirate s'est servi un petit peu de cela pour générer des millions de noms d'utilisateurs. Ensuite, il lui a fallu, en fait, tout simplement d'essayer de s'identifier sur tous ses comptes avec le mot de passe par défaut qui était tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'étonnes. C'était simple. Et donc, d'après lui, il aurait eu accès ainsi à plus de 7000 comptes, 27 000 comptes par pardon, et qui lui permet de prendre un petit peu la main sur le GPS. Et après, c'est une porte ouverte parce que ça permet, ces applications, d'avoir une option pour arrêter la voiture. Et donc, on pourrait avoir ensuite la main prise sur les GPS, ce qui est assez étonnant. Alors, ça a été communiqué selon certains sites internet dont on n'a pas encore véritablement... Enfin, tout ça n'a pas été totalement bien confirmé, expliqué. On ne sait pas le nom de la personne. Enfin, ça reste bien sûr flou. Ça reste alarmiste, bien sûr. Mais quelque part, il ne faut pas se leurrer. Ça peut aussi arriver, bien sûr, que l'on puisse avoir la main sur ces GPS. Et d'une façon générale sur ces objets connectés. Ce n'est pas la première fois dans cette émission qu'on parle de ce genre de situation. Donc il n'y a pas de raison que ça n'existe pas non plus pour les GPS et des voitures autonomes connectées. Évidemment, au bout d'un moment, il va falloir de plus en plus être vigilant et d'avoir des systèmes un petit peu de pare-feu assez efficaces, bien sûr. On verra ça à suivre parce qu'on a eu les montres, les téléphones, les ordinateurs. Maintenant, si on attaque aux voitures, on ne s'en sort pas. On verra ça, bien sûr. Allez, on continue, bien sûr, de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Et puis aussi, on s'informe et avec un peu de musique, on va écouter cette fois-ci le groupe Orsk sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après. On va peut-être retrouver juste après Anne Fleur. Tiens, ça va nous faire du bien, tout de suite.
Yeah.
Il faut un moment aussi que ça nous réveille et que ça nous booste un petit peu. Il n'y a pas de raison. Merci Orsk sur l'antenne de Graphite avec Damage Ropes de nous réveiller un petit peu dans cette programmation musicale. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h vous permet voilà, de vous tenir informé de l'actualité scientifique. On a parlé un petit peu de tout ce qui était objets connectés, voitures autonomes. On va rester un petit peu dans le même sujet avec Elon Musk qui a annoncé il y a quelques jours que Tesla, le constructeur de véhicules électriques, avait l'intention de proposer une plateforme de réservation de voitures autonomes en 2020. 2020, c'est demain, c'est l'année prochaine. Ça va être vite là. Je peux annoncer des robots taxis autonomes pour l'année prochaine avec un grand degré de certitude. C'est ce qu'a donc lancé Elon Musk lors d'une journée de présentation aux investisseurs des projets et des ambitions de Tesla en matière de conduite autonome. L'idée est fondée sur le principe d'une plateforme de réservation de voitures avec chauffeur, un peu de type Uber, mais dans ce cas précis, il n'y a pas de chauffeur. Il pense obtenir l'autorisation de lancer ce service dans certaines régions des États-Unis, à condition bien sûr que les propriétaires actuels de Tesla qui présentent déjà des fonctionnalités autonomes se prêtent au jeu. Elon Musk qui essaye de promouvoir un peu le transport à grande vitesse avec un train futuriste ultra rapide, l'Hyperloop, on en a déjà parlé. Il veut coloniser Mars avec des fusées de SpaceX, on en a parlé. Eh bien, il a expliqué que Tesla allait créer une application qui permettra aux propriétaires participant à la plateforme d'en tirer également profit. L'utilité du véhicule est multipliée par 5, a-t-il affirmé, et le constructeur a ainsi dévoilé un ordinateur de bord qui doit permettre d'assurer une conduite totalement autonome. Cet ordinateur et la nouvelle puce électronique maison qui en sera le cerveau seront installés dans toutes les Tesla, même si la conduite totalement autonome a encore pas mal d'obstacles techniques et juridique à surmonter avant de pouvoir être généralisé. Ces véhicules, pour l'heure, ne répondent pas à la définition de conduite autonome de niveau 4, c'est-à-dire que la voiture conduit seule, mais un humain est présent pour reprendre la main si nécessaire. A fortiori, de niveau 5, c'est-à-dire sans même la présence d'un humain. Et donc, Elon Musk a ainsi affirmé qu'avec la technologie Tesla, eh bien, les conducteurs n'auraient plus besoin de toucher au volant au début de l'année prochaine. C'est quand même tout de suite là, c'est assez rapide et assez affolant. Tesla qui est quand même en compétition avec de nombreuses entreprises comme Uber, le numéro 1 mondial de la réservation de voitures avec chauffeur, mais surtout Waymo de Google qui teste déjà un service de taxi autonome dans l'Arizona. Lyft, le rival d'Uber aux États-Unis, avait aussi annoncé il y a quelques mois un test grandeur nature de réservation de voitures sans conducteur auprès de certains clients à Boston. Et puis la plupart des grands constructeurs automobiles travaillent aussi sur la voiture autonome. Bref, ça va vite, ça va très vite. Mais en tout cas, Elon Musk lui promet 1 million de taxis autonomes dès l'année prochaine. On verra si ce qu'il en est, mais ça va un petit peu révolutionner le marché des véhicules autonomes et aussi le marché un petit peu des véhicules sans chauffeur, bien sûr, avec ou sans chauffeur, les fameux VTC. Et après, les véhicules sans chauffeur, je ne sais plus comment on les appellera, les VT censés, allez savoir, on verra ça, mais techniquement c'est assez intéressant bien sûr. Allez, on va retrouver comme la semaine dernière, Anne Fleur qui nous avait emmené à Boston pour nous faire découvrir un petit peu les inventions qui sont nées, je vais y arriver à Boston, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle nous emmène, c'est assez intéressant, mais en tout cas on voyage avec elle. Bonjour Anne Fleur.
Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Noël. Alors me revoilà avec la chronique qui fait voyager. La semaine dernière, je vous parlais des inventions de Boston aux États-Unis. Vous vous souvenez ? Le micro-ondes, Bose et ses casques anti-bruit, Facebook et le stylo Bi. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais je suis obligée de sélectionner. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir encore plus loin, direction Sydney, en Australie. C'est parti. Alors, si je vous parle d'Australie, à quoi est-ce que vous pensez ? Au kangourou ? Au rugby ? Au fameux guide de voyage Lonely Planet qui a été fondé là-bas ? C'est pas mal. Mais il y a en fait plein d'inventions et de technologies qu'on utilise en fait tous les jours et qui viennent tout droit du pays des kangourous. Honnêtement, ça a été vraiment difficile de n'en choisir que 5, mais c'est parti, découvrons tout ceci ensemble. La première invention dont je vais vous parler, vous l'utilisez tous les jours. Jean-Noël, est-ce que tu as utilisé un système de navigation pour venir au studio aujourd'hui ?
J'en ai pas besoin.
Je te parle bien de Google Maps. Les frères Lars et Jens Rasmussen, Neil Gordon et Steven Ma ont fondé une start-up qui s'appelait Where2 Technologies, qui est basé à Sydney, en 2003. Le logiciel s'appelait alors Expedition et était un programme sur ordinateur qu'on devait installer et coder en C++. L'année suivante, le géant d'Internet Google rachetait la start-up qui devenait Google Maps, qu'on connaît tous, et qui la convertissait donc en une application web. Et si vous me dites qu'en fait vous préférez utiliser Waze comme GPS, eh bien sachez que c'est également Google qui l'a développé. La seconde invention dont je souhaite vous parler, ce sont les fameuses boîtes noires des avions. Rendues tristement célèbres lors de crashs qui ont défrayé la chronique, on les cherche car elles sont capables d'enregistrer toutes les données d'un vol et sont virtuellement indestructibles. Elles ont d'ailleurs contribué à faire de l'avion le mode de transport le plus sûr au monde. Et celles-ci ont été inventées par un scientifique australien, David Warren. Celui-ci en a eu l'idée dans les années 50 alors qu'il faisait partie d'une équipe de recherche chargée d'étudier les causes d'une série de crashs d'avions commerciaux, le Comet. Il a pensé que cela pourrait aider les investigateurs et ainsi que l'on pourrait enrichir les connaissances des ingénieurs en écoutant les dernières conversations de l'équipage juste avant le crash et ainsi donc réparer les causes de celui-ci. Une boîte noire est désormais présente dans tous les vols commerciaux dans le monde, mais c'est l'Australie qui a été pionnière en la matière puisqu'elle les a rendues obligatoires sur son territoire en premier. Et pour l'anecdote, on parle de boîtes noires, mais sachez qu'elles sont en fait orange flash, ce qui permet de les retrouver plus facilement dans les débris d'un avion. Alors la troisième invention dont je veux vous parler, elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé lorsque j'effectuais mon stage de fin d'études chez L'Oréal. De la peau en spray. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est bel et bien une réalité. À la fin des années 90, le professeur Fiona Wood a développé et déposé un brevet à ce sujet. Le principe est le suivant, on prélève un petit peu de peau saine sur un patient que l'on utilise pour faire pousser de la peau via cellules souches in vitro, en labo quoi. Et les nouvelles cellules sont alors cheatées, je ne sais pas trop comment dire, sur la peau qui est atteinte de la victime de brûlure. Ce procédé a en fait l'avantage de diminuer énormément le temps nécessaire à la rééducation et à la cicatrisation. Et c'est d'ailleurs la technique qui a été utilisée pour sauver une trentaine de blessés lors des attaques de Bali au milieu des années 2000. Et en plus, c'est une femme l'inventeur, alors bravo quoi. La quatrième invention dont je veux vous parler, c'est le truc qu'on te demande souvent quand on arrive chez toi. C'est quoi le code du Wi-Fi ? En 1992, John O'Sullivan et le CSIRO, CIRO, c'est un peu une sorte de CNRS australien, ils ont développé la technologie du Wi-Fi. Saviez-vous que plus d'un milliard de personnes utilisent cette technologie chaque jour dans le monde ? C'est ouf. Cette technologie, cette invention, donc, est basée sur les travaux de recherche du fameux John et du CNRS australien qu'ils ont effectués pendant les années 70 dans le domaine de la radioastronomie. Et en fait, à l'époque, ce qu'ils cherchaient à étudier, c'était les échos des trous noirs dans l'univers. Et enfin, la dernière invention dont je veux vous parler, on va parler santé. Alors ici, on n'est pas exactement à Sydney, on est à peu près à une heure de vol de Sydney au nord, direction Brisbane, sur la Gold Coast. En 2006, le professeur Ian Fraser et le docteur Yan Zhu ont développé le tout premier vaccin anti-cancer au monde. Plus connu sous son nom commercial, le Gardasil, ce vaccin protège les femmes contre 4 souches du papillomavirus, que l'on connaît aussi sous le nom de HPV. Lui-même, ce virus, est connu pour être la cause de 3/4 des cancers mortels chez la femme. C'est donc une découverte et une invention absolument incroyable. Depuis 2008, ce vaccin est d'ailleurs utilisé dans plus de 120 pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour briller à l'apéro de ce soir, lorsqu'on vous parlera d'Australie, souvenez-vous de l'invention du Wi-Fi et de Google Maps, des boîtes noires dans les avions, de la peau en spray et du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle destination.
Eh bien, merci Anne-Fleur. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on ira la semaine prochaine, mais c'est vrai que dans la rubrique Savoir étaler sa science, on saura que du coup, de la peau en spray, je suis encore bloqué un petit peu sur cette trouvaille, mais voilà, tout ça nous vient de Sydney. Merci Anne-Fleur de nous faire voyager et à la semaine prochaine dans l'émission Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Drug your mind, they drug your mind. like other girls. I don't wanna grow old, I try to keep it to myself. But the days are so cold and I don't even need your help. I wanted to try and I can't stop trying. Suddenly I am lost and my head is burning. In a box I will keep my shameful feelings. And you won't open it till you hear it exploding. Forget about the questions, bother who came first. Cause I'd better be bumping the dust. I just hope the Lord forgive me all the pain I caused. But I don't wanna get the fuck out of my way and get this old. No memory on what I do, neither I'm bending my shoe. I don't wanna break the rules, I don't wanna. Well, you know, undercover girls, they drug your mind like others. Well, you know, undercover girls, they drug your mind, they drug your mind. If they come and strip me, bite me in the neck and strike me like a pearl.
Undercover Girl, c'était Holly 2 sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, vous vous tenez informé de l'actualité scientifique et vous avez bien raison. On va cette fois s'intéresser au niveau de la médecine avec ce jeu vidéo d'orientation spatiale qui s'appelle Sea Hero Quest, avec lequel il est possible de jouer depuis son téléphone. Il est accessible aussi sur tablette et c'est en réalité virtuelle. Il est disponible maintenant depuis 3 ans. Et il a permis de collecter depuis son lancement des données, mais également d'évaluer le niveau de faculté à se repérer dans l'espace de plus de 4 millions de joueurs à travers le monde. Encore, fallait-il être certain que la réussite des joueurs dépendait bien de leur capacité à s'orienter dans l'espace et non de leur habileté à utiliser un téléphone portable ou de leur habitude à jouer aux jeux vidéo. Et pour confirmer l'hypothèse de départ des chercheurs, les performances d'orientation des volontaires de tous âges, de tous sexes confondus, ont été comparées, ces performances, dans le monde réel et dans le monde virtuel. Une étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans la revue PLOS ONE et qui a confirmé que les performances d'orientation virtuelle et dans le monde réel sont parfaitement et fortement corrélées. Et cette étude a analysé l'efficacité de ce jeu vidéo pour aider à établir un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer avant même l'apparition des premiers signes cliniques. Grâce à la littérature scientifique, nous savons que l'orientation spatiale est l'un des facteurs précoces de la maladie d'Alzheimer avant la perte de mémoire ou l'altération du comportement. C'est ce qu'explique Antoine Coutreau, chercheur au CNRS et qui est notamment l'auteur de cette étude. Et pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont donc réuni 150 personnes âgées de 50 à 75 ans dans un laboratoire. Aucun des participants n'était atteint de démence, mais parmi eux, quelques-uns étaient porteurs d'un gène particulier. Celui-ci expose 4 fois plus au risque de développer la maladie d'Alzheimer. Les facultés des volontaires à se repérer dans l'espace ont ensuite été rapprochées avec celles des joueurs de ce fameux jeu vidéo Sea Hero Quest. Et Antoine Coutreau explique, nous avons comparé leur performance à celle de joueurs au profil similaire, aussi bien en termes d'âge, de sexe que d'origine démographique. L'expérience a montré que des différences significative d'orientation spatiale entre les personnes qui étaient porteuses de ce gène particulier et les autres existait. Et donc, on se dit qu'à terme, ce jeu vidéo serait proposé aux médecins comme test standardisé afin qu'ils puissent évaluer les facultés de leurs patients à se repérer dans l'espace. Une aide donc supplémentaire pour distinguer les personnes porteuses de ce gène qui favorise l'apparition de la maladie. Mais on pourrait donc établir un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer corps grâce à un jeu vidéo. C'est donc voilà cette étude qui nous vient du CNRS et qui semblait important de, d'évoquer ici dans cette émission. Autre chose, peut-être anecdotique, quoique, on sait que les chiens sont dotés d'un sens de l'odorat particulièrement développé. On le sait, c'est un fait acquis et les hommes exploitent déjà cette caractéristique pour les aider à trouver de la drogue ou des explosifs. Bien sûr, ça existe. Et bien aujourd'hui, il y a une étude américaine qui dévoile que les chiens pourraient aussi se révéler extrêmement doués pour détecter les cancers. Des chercheurs d'une société américaine qui s'appelle Biosendix ont entraîné des chiens, des beagles, nous dit-on, et un conditionnement a été destiné à les encourager à distinguer des échantillons sanguins normaux, d'échantillons de sang issus d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Et résultat, les chiens se seraient montrés ensuite capables d'identifier les échantillons touchés dans plus de 96% des cas. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces résultats, qui sont quand même assez importants, font que les chercheurs espèrent maintenant mettre au point une nouvelle méthode de dépistage des cancers précoces et non invasives, en mettant directement des chiens à contribution, ou bien en se basant sur ces travaux pour déterminer les composés que les chiens sont capables de discriminer pour rendre leur verdict. Au mois de novembre prochain, cette société américaine prévoit d'ailleurs de lancer une étude sur le cancer du sein. Les participantes seront amenées à fournir des échantillons sur lesquels des chiens seront entraînés et en parallèle, les chercheurs tenteront d'identifier, en le soumettant justement à l'odorat pointu des chiens, eh bien, les composants chimiques ou les substances responsables de l'odeur apparemment caractéristique d'un cancer. Mais voilà, c'est une étude qui est très récente et qui nous explique donc que les chiens sont capables de détecter un cancer avec 97% de fiabilité. C'est quand même assez étonnant. Et c'est encore quelque part une avancée originale dans le domaine de la médecine. On n'est pas pensé aux chiens, mais voilà, si ça nous ouvre des portes assez intéressantes, eh bien, ce n'est pas la peine de s'en priver, bien sûr. On va voir ça, ça sera une affaire à suivre, bien évidemment. Allez, on va écouter un autre titre, et puis on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'actualité scientifique. On va s'intéresser à l'intelligence artificielle qui détecte la toxicité de substances chimiques. L'intelligence artificielle, ce qui est un sujet qu'on évoque dans cette émission depuis plusieurs années, et là on découvre de nouveaux domaines d'application de cette intelligence artificielle. C'est juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
I am an alien, and what you are saying is true. But I'll never stop believing, I'll never stop believing in you. Oh, but it won't be happening if you don't start breathing too. Oh no, it won't be happening if you don't start breathing too. Will you miss me when I'm gone? Will you be happy all alone? Will you see me dead in your dreams? Will you hear my heart when it screams?
Yeah.
When I'm Gone, c'était Louis Aguilar sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et vous avez bien raison, qu'est-ce que je vous envie de pouvoir suivre cette émission régulièrement tous les samedis entre 12h et 13h sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Tous les samedis on s'intéresse à l'actualité scientifique, on parle de tous les sujets scientifiques et techniques et on parle très souvent depuis un certain temps dans cette émission de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne compte plus les domaines d'application de cette intelligence artificielle. Après l'astrophysique, les jeux vidéo, la médecine, la chimie, eh bien, elle s'essaie maintenant à la toxicologie et confirme justement que cette efficacité de l'intelligence artificielle n'est plus à démontrer. Et on a donc mis en évidence une découverte assez intéressante entre au niveau de la toxicité des substances chimiques. Elle révèle, cette intelligence artificielle, un risque d'obésité associé à une molécule de remplacement du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, qui est le bisphénol S. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on se rend compte dans l'article de Futura Science, nous explique un petit peu tout le protocole expérimental qui a été mis en place, que je ne vais pas évoquer dans cette émission parce que c'est quand même assez complexe avec des termes qui sont assez difficiles et par le média radio, il faut peut-être s'abstenir des fois de rentrer dans des complications, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu essayer de déterminer grâce à l'intelligence artificielle et avec cette idée justement que l'on peut qu'elle apprend elle-même toute seule par incrémentation et donc essayer de repérer plusieurs cas et d'essayer de les analyser pour en tirer des conclusions, qu'il y avait à terme la possibilité de pouvoir renforcer des liens, ou en tout cas des évidences, entre certaines situations et certaines causes, et donc d'essayer d'avoir des liens entre cause et effet. Et il y a tout un article sur Futura Science qui nous explique justement cette intelligence artificielle a permis donc de détecter la toxicité de certaines substances chimiques dont au départ on n'avait pas nécessairement identifié les risques. On sait qu'il y a certaines molécules chimiques qui sont assez ciblées comme étant très malsaines en tant que perturbateurs endocriniens, par exemple, et il y en avait d'autres qui étaient censés les remplacer, et on se rend compte parfois que ce n'est pas si efficace que cela et qu'on peut avoir des vraies difficultés justement avec ces nouveaux essais. Et justement, dans le cas du bisphénol A, on a voulu tester une molécule de remplacement qui s'appelle le bisphénol S, alors avec donc une structure chimique légèrement différente, et finalement on se rend compte qu'il y a aussi des effets un peu néfastes et qui font qu'il va falloir peut-être continuer les recherches pour essayer d'éliminer ces certaines maladies. Donc voilà, l'intelligence artificielle, dans le cas de la médecine, est très souvent utilisée, pas souvent évoquée dans cette émission, ou en tout cas évoquée dans les différents articles scientifiques que l'on peut trouver, mais ça nous semblait important de pouvoir l'évoquer ici. Comme on parle de toxicité, je voulais m'arrêter sur ce rapport assez alarmant du Fonds de l'ONU pour l'enfance, c'est l'UNICEF, qui appelle à la mise en place en ville de zones de circulation restreintes suffisamment ambitieuses, et elle a saisi de ce thème pour la première fois la France, et c'est assez inquiétant. L'UNICEF explique qu'il y aurait la possibilité de pouvoir réduire la pollution de l'air, car 3 enfants sur 4 respireraient un air toxique en France, ce qui peut bien sûr favoriser des maladies respiratoires et d'autres pathologies. Quand on dit air pollué, on pense souvent pays en développement, épais brouillard, mais en France, donc 3 enfants sur 4 respirent un air pollué, c'est ce qu'explique l'OMS, également l'Organisation Mondiale de la Santé. On en connaît de plus en plus les implications, il y a les maladies respiratoires, mais aussi le lien avec le diabète ou les syndromes dépressifs. Nous appelons au respect des droits des enfants, notamment à vivre dans un environnement sain, c'est ce qu'explique Jody Sauré, chargée des relations de l'UNICEF avec les pouvoirs publics et qui est notamment la coordinatrice de cette campagne. Les progrès réalisés pour réduire les émissions de particules fines ou de certains gaz comme le dioxyde d'azote, notamment en ville, on sait que des progrès restent encore sont insuffisants et qu'il va falloir encore généraliser des zones à faible émission, donc en cercle, de toute façon générale, essayer d'avoir des zones où on va moins circuler avec les véhicules. L'UNICEF en appelle notamment aux élus locaux et nationaux et s'adresse notamment à la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il est encore temps de protéger la santé des enfants qui grandissent en ville. Donc, parmi les mesures recommandées, encourager donc ce qu'on appelle les mobilités douces, les voies réservées, l'apprentissage du vélo pour les enfants, des forfaits pour les salariés, l'idée de tarifer les transports en commun selon les revenus, l'idée de réguler la circulation aux abords des écoles. Le rapport cite de nombreuses études, mais déplore le manque de données propres aux jeunes populations. C'est-à-dire qu'en général, les études qui sont menées sur la pollution de l'air s'intéressent à la population générale et non pas sur une partie de la population précise. Et ici, en ce qui nous concerne, eh bien, ce sont les enfants. Même si on sait que les enfants sont totalement vulnérables parce que l'organisme est encore immature, on va dire, c'est-à-dire que leur fréquence respiratoire est 1,5 fois plus élevée que celle d'un adulte, et donc ils sont plus sujets à pouvoir respirer ces airs toxiques. La pollution de l'air provoque de l'asthme, favorise les poussées d'eczéma, elle aggrave les pathologies respiratoires de ceux qui en ont. C'est ce qu'explique Jocelyne Just, chef du service d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris, et la France est donc poursuivi par l'Union européenne pour non-respect dans 14 agglomérations de normes européennes pourtant moins strictes que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Mais voilà, il y a un vrai, vrai problème de pollution en France avec donc ce rapport de l'UNICEF qui explique que 3 enfants sur 4 en France respirent un air toxique. C'est quelque chose d'assez assez inquiétant et finalement assez peu évoqué malheureusement. Et pour l'instant, on ne sait pas encore précisément quelles vont être les solutions préconisées par les pouvoirs publics. On verra ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout avoir. On verra la pollution plus tard. Pour l'instant, on écoute un peu de musique. À tout de suite.
Signs on the cotton in the skies. and I'll stick you in the oven and you'll end up happy.
You don't know who I am, c'était Jane Bug sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis sur le 94.9 pour la bande FM et graphite.net sur internet. Vous écoutez entre 12h et 13h Biotine, émission de science sur l'antenne de Graphite. On termine cette émission, parce que c'est déjà la fin de cette émission, c'est passé très vite, avec cet article où on nous explique qu'au XVIe siècle, déjà, les artilleurs de la marine avaient noté que les boulets de canon pouvaient rebondir sur l'eau à condition d'être tirés sous un certain angle, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, des physiciens de l'université de l'État de l'Utah aux États-Unis explique comment des sphères élastiques, quant à elles, parviennent à rouler sur l'eau après quelques rebonds. De quoi espère-t-il jeter les bases du design de futurs drones qui seraient capables, eux aussi, de pouvoir marcher, entre guillemets, sur l'eau. Les chercheurs ont utilisé des caméras à haute vitesse pour enregistrer les mouvements de sphères en silicone à la surface d'une étendue d'eau. Lorsque ces sphères sont tirées d'un angle faible et atteignent une vitesse suffisante après les premiers impacts, eh bien, elles se mettent à se déplacer de façon presque parallèle à la surface, comme si elle marchait sur l'eau. Les physiciens expliquent le phénomène par la déformation des sphères qui abandonnent alors leur forme à géométrie parfaite pour une forme un petit peu plus oblongue, et la marche sur l'eau se révèle n'être autre chose que la combinaison de rotation continue de ces fameux disques de silicone et de rebond qu'ils effectuent au ras de la surface. Par ailleurs, il semblerait qu'il existe deux types de marche sur l'eau. Dans la première, la forme en silicone rebondit une fois par rotation complète. Dans la seconde façon de pouvoir marcher, eh bien, elle rebondit deux fois. Une découverte qui fournit de nouvelles informations sur la physique des impacts sur l'eau. C'est très sérieux, c'est très intéressant parce que ça intéresse, outre les concepteurs de drones, également les opérations navales et le génie maritime. Mais voilà, on découvre encore pas mal de choses aujourd'hui avec cette physique des impacts sur l'eau et donc avec l'idée peut-être de pouvoir bientôt construire des drones qui pourront marcher sur l'eau. C'est assez récent et c'est assez étonnant. C'est encore des applications totalement intéressantes et pertinentes. C'était Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite un bon mois de mai. Hein, il doit faire très beau à mon avis là où vous êtes. De toute façon, vous nous écoutez dans tout le monde, partout dans le monde grâce à graphite.net et uniquement dans l'Aisne, l'Oise et la Somme pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, bien sûr. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine où on continuera voilà, à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Et on retrouvera bien sûr Anne Fleur la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des inventions du monde. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Restez fidèles, bien sûr, à l'essentiel des émissions de Graphite. Et on se retrouve samedi prochain à 12h, même heure, même endroit. Bonne journée à tous. À bientôt, au revoir.